Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'était le vrai coup d'envoi de sa campagne. Manuel Valls attendait beaucoup de l'émission politique de France 2 hier soir. Résultat pour l'audience, à peine 2 millions de téléspectateurs, donc plutôt moyen. Et une prestation en demi-teinte. L'ancien Premier ministre a dû longtemps se justifier et assumer le bilan du quinquennat, tout en disant qu'il avait changé. L'équation est difficile, il faut bien le dire, pour Manuel Valls qui souffre en ce début janvier. Loin de la primaire, Emmanuel Macron poursuit son bonhomme des chemins. Coqueluche des médias, il fait la une de l'Obs et de VSD. Cette semaine. Il sera en meeting demain en Auvergne et surtout il marque des points dans les sondages. Le voici en tête d'une enquête BVA révélée aujourd'hui sur les personnalités dont les Français souhaitent qu'elle ait davantage d'influence. Il est même qualifié pour le second tour de la présidentielle selon un sondage Elab. Macron décolle, Valls piétine. Alors la primaire va-t-elle accoucher d'un loser, un candidat qui sera battu dès le premier tour? Emmanuel Macron va-t-il continuer sur sa lancée et prétendre à la victoire finale? Quel avenir pour Valls, Payon, Montebourg, Hamon, cette génération Jospin qui se déchire aujourd'hui? Pour répondre à ces questions et à toutes vos questions SMS et Internet, voici nos invités ce soir. Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Nathalie Saint-Cricq, vous êtes chef du service politique de France 2 et vous co-animez tous les dimanches Questions politiques sur France Inter. Éric Fotorino, vous êtes journaliste et écrivain et vous dirigez l'hebdomadaire Le 1. Marc Lazare, vous êtes historien, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po. Bonsoir à tous les quatre, merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Jean-Luc Mélenchon est une fine lame, hein, il est souvent cinglant, il l'a encore prouvé dans une interview qu'il a accordée au Monde, datée d'aujourd'hui, avec une phrase et une question qui est terrible. À quoi bon un candidat du PS avec cette... cette sortie, est-ce qu'il ne dit pas ce que beaucoup pensent tout bas, y compris au PS?
Oui.
Yves Tréhard.
Il dit, on va pas se mentir, il dit effectivement ce que beaucoup pensent tout bas, même s'il a changé de ton, Mélenchon. Il est plus dans la vocifération, dans l'agression. Il est, au contraire, vous savez, il est malin, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un vieux renard de la politique, si je puis me permettre. Il essaye de capter l'électorat déçu, précisément, du Parti Socialiste et d'une partie de la gauche. À quoi bon? Oui, mais le PS, le Parti Socialiste tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il a été fondé par François Mitterrand en 1971 au Congrès d'Épinay, eh bien, il joue sa survie, précisément. Et ce qui se joue aujourd'hui, je vous entendais dans votre propos liminaire, en disant, bon, de toute manière, ils vont au casse-pipe à la présidentielle parce qu'ils ne seront pas qualifiés pour le deuxième tour. Ce qui se joue aussi, c'est l'après 2017, il ne faut pas l'oublier, et qu'évidemment, entre la sensibilité de Valls, même si aujourd'hui il joue complètement à contre-emploi par rapport à ce qu'il est, il est contre-nature, on pensait voir arriver Bonaparte et on a le fils d'Henri Queuil, vous voyez, c'est à peu près ça, eh bien, Et de l'autre côté, vous avez une gauche qui est beaucoup plus affirmée, qui est incarnée par, alors qui est un peu différente d'ailleurs selon les cas, par Hamon, Benoît Hamon, ou Arnaud Montebourg. Et c'est évidemment cet avenir du Parti Socialiste qui est aussi beaucoup en jeu. Parce que je crois que sincèrement, ils se font, et les uns et les autres, assez peu d'illusions sur ce que sera cette présidentielle. Quoique, eh bien, il peut y avoir un sursaut d'orgueil de l'électorat socialiste et qui veut montrer bah, qu'il existe et que voilà. Mais bon, il y a quand même Macron et Mélenchon qui sont de sérieux clients.
Nathalie Saint-Cricq, à quoi bon un candidat PS pour reprendre la question posée par Jean-Luc Mélenchon?
Quand on regarde sur le papier, il y a une évidence, c'est qu'il y a Mélenchon qui incarne effectivement un pôle de gauche de la gauche, qui s'est un peu calmé, et puis il y a Macron qui est l'autre gauche plutôt, enfin même s'il dit ni droite ni gauche, qui est une espèce de forme de gauche réformiste. Donc on se dit finalement Valls, c'est un peu ressemble un peu à Macron, Macron un peu Valls, et Macron l'incarne bien, et puis Mélenchon finalement, c'est pas loin d'Hamon et Montebourg. Et quand on voit les sondages, on se dit comme Mélenchon est crédité de 14, 15, 16, et que vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron monte aussi, on se dit bah, il va y avoir quelqu'un qui va être comme le jambon au milieu des deux tranches du sandwich et qui risque d'être laminé, c'est le candidat du Parti Socialiste. Donc c'est du bon sens, mais on ne peut pas imaginer non plus que le Parti Socialiste dise « bon bah ciao, on va abandonner, on ne va pas avoir de candidat », même si ça se finit mal.
Alors, pas bien. La question en ce qui concerne Manuel Valls, parce qu'on va beaucoup s'intéresser à lui ce soir, ainsi qu'à Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut perdre cette primaire et au fond connaître le même sort que Nicolas Sarkozy, qui avait été battu dès le premier tour de la primaire de droite, Éric Fotorino?
Bien sûr, si vous voulez, pour rebondir aussi avec ce que vous, le propos d'avant, c'est que si François Hollande avait été candidat, peut-être la question ne se serait pas posée de la même manière. À quoi sert un candidat? Bah si, il va défendre son bilan. Là, c'est pas le cas, c'est la première fois sous la Ve République. Donc effectivement, Manuel Valls, bien sûr qu'il peut perdre. Pourquoi? Parce que il a voulu mettre quand même, pousser un peu dehors François Hollande en disant c'est moi qui dois y aller, en tout cas c'est pas toi. Mais il ne peut pas s'affranchir du bilan. Maintenant le bilan, il est sur lui, c'est pas possible. Et je crois que ce qui était frappant hier dans l'émission, c'était de voir que finalement on peut avoir deux mains, on peut avoir deux bras, on peut pas avoir deux cerveaux, on peut pas avoir deux langages. Ouais. Et donc à un moment donné, vous pouvez pas dire j'ai changé. Effectivement, c'est du sarkozysme un petit peu d'une époque, vous vous souvenez, il avait changé quasiment tous les quatre matins. Mais j'ai changé et en même temps, il avait la posture encore d'un Premier ministre, c'est-à-dire défendant des bilans. Sur le 49-3, c'était même assez pathétique de dire ah mais non, on me l'a imposé. D'ailleurs, il y a une chose subliminale qui m'a frappé hier, c'est que son programme fait 49 pages, il a été donné le 3 janvier. Donc 49 et 3, il y a quelque chose d'assez étonnant chez Manuel Valls, presque d'inconscient. Je ne peux pas l'allonger sur aucun divan. Mais donc je pense qu'effectivement, bien sûr qu'il peut perdre. Et moi, je vais peut-être m'avancer un peu plus. Je pense qu'il va perdre. Je pense qu'il va perdre. En tout cas, qu'il perdra la primaire. Il y a de fortes chances et je pense qu'en effet, il ne peut pas gagner. Mais comme le dit Yves, avec à juste titre, ce qui se joue, ce n'est pas tellement la présidentielle pour lui. Ce qui se joue, c'est l'après d'un parti qui ne sera peut-être plus socialiste.
Enfin, s'il perd cette primaire, l'après s'assombrit. Marc Lazare, est-ce que vous diriez, vous aussi, de façon aussi catégorique, que Manuel Valls peut perdre cette primaire?
On n'est pas là. Et d'abord, je crois qu'il faut faire attention à une première chose. Nous sommes dans une situation totalement inédite. Toutes les primaires qu'on connaissait jusqu'ici étaient des primaires de partis d'opposition, avec normalement des candidats ou un candidat qui semblait gagnant face aux sortants. Or là, y compris quand on regarde la situation européenne, il y a beaucoup eu de primaires en Italie, on n'a jamais eu une primaire d'un parti qui est au pouvoir. Et ça, c'est vraiment une situation tout à fait inédite. Et donc très difficile à gérer pour tous les candidats, et en premier lieu par Manuel Valls. Puis la seconde observation, c'est que normalement dans une primaire, justement, il y a, parce que c'était une primaire de parti d'opposition, une grande chance de gagner. Et ici, a priori, justement, il n'y a pas de grande chance de gagner. Donc quel est le dilemme de Manuel Valls, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, c'est d'essayer de retrouver un espace pour la gauche, et c'est pour ça qu'il s'est gauchi. Il a besoin d'essayer de reconstituer, fût-ce artificiellement, le conflit, le clivage avec la droite, d'où la violente altercation, enfin assez vive, avec Thierry Soler. Hein, parce qu'il faut essayer de refaire vivre un espace gauche-droite, y compris par rapport évidemment à Macron. Et là, toute l'ambition des différents candidats socialistes, c'est d'essayer d'exister pendant trois semaines pour refocaliser l'attention sur la primaire de gauche et essayer de retrouver des électeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les différentes enquêtes qu'on a, on voit une certaine appétence des électeurs pour cette primaire, même s'ils ne savent pas quelle date.
Ça pourrait être la surprise pourrait venir de là dans
mais
un premier temps.
Tout dépendra de la participation.
C'est
et ça. Et c'est très intéressant dans le sondage Harris qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions d'avant l'émission, où on voyait que Manuel Valls était favori, surtout dans l'électorat dit sympathisant socialiste, mais pas dans l'électorat du reste de la gauche. Alors, quel type d'électorat va se mobiliser alors que, justement, a priori, le candidat socialiste n'a pas beaucoup de chance, hein. Est-ce que ça va être, on va se mobiliser à gauche parce qu'on veut donner son avis sur le bilan, ou est-ce que, justement, on essaye de trouver un candidat présidentiel malgré tout?
Est-ce qu'il n'est pas, on va voir dans un instant les extraits de l'émission d'hier soir, mais est-ce qu'il n'est pas coincé, Manuel Valls, entre le bilan, François Hollande, ce quinquennat, et de l'autre côté, Emmanuel Macron, la gauche moderne, c'est plus lui.
Il est coincé, pourquoi? Parce qu'il s'est fait voler la boutique par Emmanuel Macron, d'abord. La deuxième chose, c'est parce qu'il ne faut pas l'oublier, et c'est un homme de conviction, même si aujourd'hui, on daube un peu sur sa façon de faire sa campagne, puisqu'il n'est vraiment pas du tout dans le profil, l'habit, je dirais, dans lequel on le connaît. C'est qu'il est obligé de se mettre au cœur du Parti Socialiste, alors que de tout temps, et historiquement, c'est l'homme qui représente justement cette gauche réaliste, cette gauche qui veut pas faire de déficit, cette gauche qui a un discours pas du tout commun pour la gauche sur la sécurité, c'est quand même un homme qui se retrouve obligé, d'une certaine façon, d'incarner la synthèse de celui qui n'a pas voulu, eh bien justement, la porter, c'est-à-dire François Hollande. Et ça lui va pas. C'est pour ça que je disais que j'avais plutôt l'impression de voir Henri Queuille, qui était l'homme de la synthèse et des commissions permanentes, plutôt que Bonaparte ou Pont d'Arcole.
Nathalie Sinclair.
C'est-à-dire qu'il a fait un calcul, c'est qu'il se dit qu'il doit parler à la gauche. En général, dans le temps, Manuel
Valls... Il n'a pas tort, là.
Bon, donc il ne veut pas faire le Juppé, parce qu'il dit Juppé a parlé à la France en se trompant de combat, c'est-à-dire parlant à la France pendant la primaire. Il n'a pas parlé à la droite, mais en réalité, Fillon a gagné. Donc lui se dit, je parle à la gauche, donc j'essaie de me gauchir. C'est vrai que ça ne lui va pas, et que quand on aime Valls, on est déçu, et quand on l'aime pas, on rigole. Voilà. Donc s'il y a un problème de positionnement, mais on verra quand même, moi je suis moins négatif qu'Éric Fotorino, si finalement cette stratégie qui est de spolier un peu, je ne parle pas du 49-3 parce que ça je pense que c'était vraiment une erreur majeure stratégique parce que ça fait rigoler tout le monde, mais est-ce qu'en adoucissant un petit peu son image, en essayant d'admettre qu'il est un peu différent de ce qu'il a été, bon il a quelque chose à jouer même si c'est un enfer absolu et que hier soir, moi j'aurais pas dit Henri Queuille, je trouvais qu'il était un peu hollandisé dans son espèce de tentation de faire de la synthèse.
Oh et ça c'est pas un compliment.
Y compris dans la manière de parler.
Qu'est-ce que vous voulez dire par hollandisé?
C'est-à-dire que ce qui est toujours la même chose, je ne dis pas ce qu'on aime chez Valls, ce n'est pas le problème de ce que je pense, mais que le côté transgressif, ça fait quand même 20 ans qu'il n'est jamais d'accord, qu'il dit qu'il faut changer de nom, qu'il dit le voile, moi je suis pour l'interdiction. C'est-à-dire qu'à chaque coup, il est resté ferme. Mais tout ce qui faisait la marque de fabrique de Valls, il est obligé de le gommer parce que c'est une primaire. Alors le problème, c'est de savoir si la primaire, c'est bon pour Valls.
2 heures d'émission hier soir en prime time. Manuel Valls a pu détailler en effet ses propositions, mais il a été longuement interrogé sur ses revirements. C'était un exercice compliqué. Un retour sur les principales déclarations de l'ex-premier ministre avec Laurent Hirsch.
Je n'ai pas changé de conviction. Je suis un réformiste. Un réformiste de gauche, un social-réformiste. Parfois, j'ai pu me tromper. Parfois, j'ai pu changer sur les outils économiques pour améliorer la compétitivité. Mais j'ai grandi. J'ai mûri. Je suis au cœur des progressistes. D'Emmanuel Macron jusqu'à Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon. J'ai utilisé 2 fois le 49-3. Il a été utilisé sous la Ve République 80 fois.
Vous l'avez utilisé 6 fois, le 49-3,
Manuel Valls. Je l'ai utilisé sur deux textes de loi. Différent, la loi Macron et la loi Travail. C'est toujours comme ça que ça se passe, on l'utilise à chaque lecture. Mais on m'a imposé le 49-3. Je n'ai pas trouvé le soutien d'une 50aine de députés socialistes qui continuaient à s'opposer. Mais il fallait à ce moment-là l'imposer. Mais j'ai bien compris aussi ce que cela donnait comme sentiment de brutalité, d'autant plus qu'il a fallu l'utiliser dès le début de la discussion parlementaire. Je m'inquiète d'une mode qui est en effet celle d'un voile revendiqué. Nous avons des lois qui ont été votées par la représentation nationale en 2004 sur l'interdiction des signes religieux, de tous les signes religieux à l'école. Il y a une loi qui a été votée, je l'ai votée en 2010, interdisant le voile intégral dans l'espace public. Et puis, allons jusqu'au bout de cette discussion. Vous faites un choix, et bien, je le respecte, mais enfin... Qu'est-ce que c'est cette idée que les cheveux, que le visage, que le corps d'une femme serait impudique? L'espace géographique qui nous permet d'être puissants dans le monde d'aujourd'hui, face à la Chine, face à l'Inde, bien sûr face aux États-Unis d'Amérique, c'est l'Europe. Et c'est cette Europe qui doit aujourd'hui s'armer pour être capable de faire face à la mondialisation. Elle a été trop naïve, elle a trop ouvert ses frontières, elle n'a pas suffisamment taxer un certain nombre de produits. Ça veut dire qu'il faut augmenter les droits de douane. Avec la Russie, il faut toujours parler franchement. C'est ce que nous avons toujours fait, c'est ce que notre diplomatie avec François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Laurent Fabius a toujours fait. Quand j'ai rencontré le Premier ministre Medvedev, c'est également ce que je lui ai dit. Il faut parler franchement à la Russie. Elle doit assumer ses responsabilités de grande puissance.
Première question SMS, Manuel Valls est-il ringardisé, ça poursuit un peu notre conversation, ringardisé par Emmanuel Macron? Éric Fotorino.
Ça va que le mot est sévère, mais de fait, Macron parle le même langage que Valls, sauf qu'il le parle mieux, il incarne autre chose, il n'est pas aussi lié au passé que l'est évidemment Manuel Valls. Manuel Valls, c'est quand même issu de l'appareil dont il a voulu évidemment essayer à chaque fois toujours de le faire exploser, mais malgré tout, il était dedans. Lui, Macron dit, je ne suis pas socialiste, il n'a pas été au PS ou si peu, parce que c'est... Et puis, je pense que le masque de Brutus qu'on a voulu coller à Macron, finalement, Mélenchon, il colle mieux au visage de Valls, d'une certaine manière. Donc je pense que dans termes de, même de trahison, on se dit qu'il y a une cohérence plus grande. Le mot de cohérence, on a vu, a été soulevé beaucoup hier. La cohérence n'est pas du côté de Valls aujourd'hui.
Il y avait un sondage très dur pour Manuel Valls à la fin de l'émission, hier soir. Selon Harris Interactive, il n'a convaincu que 29% des téléspectateurs. Alors pour rappel, c'était 33 pour Arnaud Montebourg et 40 pour Benoît Hamon. C'est une claque, non ?
Mais je crois que c'est... Oui, enfin, d'après ce que disent cette enquête. Mais parce que je crois qu'il est sur trois positionnements à la fois. C'est-à-dire que c'est un positionnement plus exactement sur trois piliers. Le premier, c'est celui, effectivement, de se gauchir pour les raisons qu'on a indiquées. Le deuxième, c'est essayer en même temps de se poser cette fois-ci comme le rassembleur. Mm-hmm. Vous avez remarqué qu'il n'a jamais fait, durant toute cette émission, aucune attaque personnelle contre ses concurrents. Il a mis en cause les frondeurs pour le 49-3, mais il n'a attaqué personne. Parce qu'il pense, évidemment, au deuxième tour et puis à l'après primaire, puisqu'il pense qu'il va la gagner. Et la troisième posture, c'est celle, justement, l'homme d'expérience, celui qui a été Premier ministre, la fameuse incarnation qu'il reprochait, dont il reprochait l'absence, chez François Hollande. Alors évidemment, ça brouille les choses. Mais quand vous regardez l'enquête Harris, c'est vrai qu'il a peu convaincu, mais en même temps, 52% des Français de gauche considèrent que c'est lui qui est le meilleur présidentiable. Oui. Donc c'est le troisième aspect du pilier. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'il arrive à faire oublier tout ce qu'il a dit sur les gauches irréconciliables, sur le fait qu'il était dans une posture justement de rupture avec la gauche traditionnelle. Et ça, c'est effectivement très difficile. Ouais. Mais attention, il a trois piliers. Donc quand vous êtes dans une campagne, vous pouvez avancer un des éléments et puis affaiblir l'autre selon les moments. Et attention, il y a encore trois. Et surtout, il y a trois débats.
Oui, qui seront probablement déterminants, bien sûr. Non, il a tenté une forme de coup de poker lorsqu'il a dit « j'ai changé ». J'ai mûri. Alors évidemment, tout le monde a pensé à Nicolas Sarkozy parce que Nicolas Sarkozy l'a tellement dit que c'en est devenu presque une blague au bout d'un moment. Mais là, est-ce que c'est dangereux ce genre d'aveu ?
C'est pas un aveu, c'est de la com. Enfin, je crois que c'est de la com. Et encore, je pense que c'est pas de la com très bien faite parce que. Bon, il a changé, bien sûr, on change tous, on a des coups dans la figure. D'abord, on vieillit, et lui a vieilli aussi. On a même trouvé, moi j'ai même trouvé au cours de l'émission qu'il accusait le coup. Bon, bien sûr, il a changé, mais de répéter en boucle « j'ai changé » n'a absolument aucun sens. C'est de la com' mal faite, de même que quand il se met son pull à col roulé noir, pour une certaine de gravité, tout ça, c'est pas quelque chose de très utile. Mais le côté « je souris, je suis joyeux, je suis sympa, je suis pas du tout quelqu'un qui pique des crises régulièrement », ça aussi, c'est pas utile de nous le dire. Il est comme il est. Après, l'idée, c'est pas de passer un week-end avec lui, c'est simplement de voir s'il est capable de faire les choses. Donc, je trouve que toutes ces petites corrections d'image à la marge sont pas franchement utiles parce que les gens ne sont pas dupes. Ils sont pas idiots, les gens. Ils voient le caractère de quelqu'un, ils voient quand quelqu'un sourit faux. À la télévision, par moment, on peut affecter une mine gentille. Et c'est pour ça que, comme le disait Marc tout à l'heure, les débats, c'est-à-dire la gestuelle, la posture et la relation qu'il y aura à Arnaud Montebourg avec Peillon, avec Benoît Hamon, ça sera quelque chose d'assez intéressant pour voir exactement quel est l'état de leur force. Et là, s'il est trop mou et trop, on s'aime tous, c'est merveilleux, il y a quelque chose qui sonnera faux.
Yves Tréhard, sur le « j'ai changé ».
Oui, mais de toute manière, vous savez, l'aveu du « j'ai changé » en politique, il est toujours frelaté. Nicolas Sarkozy, qui pouvait croire qu'il avait changé ? Le naturel avec Nicolas Sarkozy revient toujours au galop. Pour Manuel Valls, c'est pareil. Son naturel, à lui, c'est d'être tranchant, c'est d'être affirmatif. Et là, il a changé. En plus, il a mal changé d'une certaine façon dans la communication, parce qu'il assume même pas l'histoire du 49-3. Il assume pas. On ne sait pas, le téléspectateur qui n'est pas avisé comme nous autres, qui n'est pas tout le temps en train de faire de s'occuper de la vie politique, il se dit, on me l'a imposé, c'est Hollande qui lui a imposé.
Il aurait dû dire, le 49-3 m'a été imposé par les faits.
Voilà.
Alors il a dû faire de la voix active et pas de la voix passive.
Et qu'il était embarrassé, qu'il a...
Surtout, il a pas dit, moi je trouve qu'il a menti sur le 49-3, dans le sens où il a voulu le 49-3 pour bloquer Macron, pour qu'il n'y ait pas de loi Macron dont Macron aurait pu se prévaloir.
Alors,
je pense que c'est quand même important.
La deuxième chose relative à l'aveu, c'est évidemment, dont parlait Nathalie, c'est que je crois que la politique aujourd'hui, et ceux qui ont du succès en politique aujourd'hui, c'est ceux qui incarnent une certaine forme d'authenticité, de vérité, de sincérité. Ça a été le cas, qu'on soit pour ou contre, de François Fillon pendant la primaire. On va voir ce que ça donne maintenant, mais pendant la primaire...
Il lui a dit « j'ai pas changé ».
Oui, mais il était
lui-même. Je suis pas là pour vous plaire, on s'en fiche, je suis comme je suis.
Il m'a dit, je fais pas de com, c'était un peu l'anti-Sarkozy de ce point de vue d'ailleurs. Voilà. Quel est le succès de Macron aujourd'hui ? Le succès de Macron, c'est une espèce... Alors en plus, lui, il a l'avantage d'être, je dirais, un bisu, comme on dit sur la course du Vendée Globe, dans l'histoire. C'est-à-dire que personne ne le connaissait, il arrive, il n'a pas de casserole, il n'a pas de passé politique, il n'a pas de reniement, il n'a pas de parti. Et les gens se disent, mais les partis, on en a un peu assez, parce que finalement, ils nous ont beaucoup menti, ils nous ont beaucoup promenés, et lui, il y a une espèce de virginité qui le sert. Et cette virginité, eh bien, elle va avec l'authenticité, elle va avec une certaine vérité, elle va avec une certaine sincérité, même si, évidemment, faut pas se leurrer, il y a des failles.
Que reste-t-il du Valls réformiste qu'on a connu avant le quinquennat, le Valls qui voulait tout changer, qui voulait changer l'ISF, les 35 heures, le nom du PS, il est où ?
Ben justement, il a disparu, mais en même temps, il est toujours là. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il n'arrive pas comme un seul homme, Valls. Il y a trop de Valls, d'une certaine manière, et il n'arrive pas à choisir ce qu'il ne peut pas choisir. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que Valls, au fond, il a gommé beaucoup de choses de lui-même, beaucoup de choses de son histoire, de son parcours. Il faut se souvenir qu'en 1981, il ne vote pas parce qu'il est espagnol. Il votera en 1982 et il rejoindra Michel Rocard, lequel a d'ailleurs beaucoup utilisé le 49-3. Mais Valls, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ce qu'il veut nous montrer. C'est comme desséché, comme asséché. Et alors, ce qui manque dans son discours aujourd'hui, je pense qu'il aimerait au fond de lui tenir, c'est que, qu'est-ce que c'est la gauche, l'idéal de la gauche? L'idéal de la gauche, les inégalités, c'est les gens qui souffrent, qu'il faut protéger, la mondialisation, etc. Tout ce discours-là, que Hamon, que Mélenchon, hors la primaire, sont en mesure de tenir. Lui, n'arrive pas à le tenir. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans toutes les langues hier, j'aime l'entreprise. Mais j'aime l'entreprise, il n'était pas obligé de le dire comme ça, jusque-là. Et il se passe quoi? C'est que la gauche est désarmée, et Valls est désarmée comme la gauche. Parce que elle a perdu ce verbe de gauche, elle a adopté la sémantique de la droite, et aujourd'hui, lui incarne ça parce qu'il a voulu être le premier de la classe de la gestion. Je suis le meilleur en gestion, le meilleur en calcul, en rigueur, en respect des objectifs de Bruxelles, etc. Oui, bah alors à un moment donné, si vous êtes ça, vous ne pouvez plus être l'homme qui défend l'idéal de la gauche. Il a toujours dit Valls, vous savez, Clémenceau, Jaurès. Clémenceau dit, il faut aller gouverner. Jaurès dit, ah oui, mais on va se salir les mains. Eh bien, bien sûr, un idéal est toujours sali par l'action du pouvoir, mais Valls a toujours dit il faut aller gouverner plutôt et accepter qu'on soit sali un peu.
Marc Lazare.
Non, je partage en partie l'analyse d'Éric Fotorino, mais je pense qu'il avait un choix stratégique à faire. Où il allait sur ses positions, celles qu'on connaît, celles qu'on n'arrête pas de rappeler, évidemment, et il risquait gros, parce qu'il risquait de perdre la primaire. Donc il a choisi autre chose. Et de ce point de vue-là, c'est tout aussi risqué. Hein, mais il y avait un choix à faire. Il a, encore une fois, fait ce pari de partir sur la gauche tout en essayant d'apparaître comme le rassembleur et celui qui incarne la fonction présidentielle. Donc ça, c'est un véritable problème pour lui. Mais j'ajoute que ce qui est très intéressant, en tout cas pour moi, c'est que cette question, elle se pose pas simplement en France. Elle se pose dans toute la social-démocratie européenne. Et moi, je me souviens, en septembre 2014, Manuel Valls est allé en Italie, à Bologne, à la fête de l'Unita, le journal proche du Parti démocrate, avec Matteo Renzi et Pedro Sanchez. Matteo Renzi, le chef du gouvernement et le secrétaire du Parti démocrate, et Pedro Sanchez, le leader du PSOE. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Matteo Renzi a perdu le référendum et a dû quitter le gouvernement. Il est à la tête de son parti. Pedro Sanchez a perdu le parti et essaye de le reconquérir. Emmanuel Valls est dans la situation où il est hors. Les trois, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils posent la question qu'a exactement dit Manuel Valls hier. Il a dit peut-être qu'on a fait trop de concessions au marché et au libéralisme. C'est le grand dilemme de la gauche social-démocrate. Et qu'est-ce qu'ils font tous les deux autres? Renzi est en train de dire bah, peut-être qu'il faudrait faire une alliance sur ma gauche avec un parti qui est en train de se reformer actuellement en Italie. Et Sanchez est prêt à faire des alliances avec Podemos. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a perdu la direction du PSOE. Donc on est dans un contexte européen aujourd'hui où une partie de la gauche dite sociale, réformiste, sociale, libérale est en train de s'interroger sur toutes ces années de gouvernement depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis l'expérience Tony Blair en Grande-Bretagne, pour se dire mais où se repositionner aujourd'hui? C'est la démonstration de la grande crise stratégique et identitaire.
Donc ça ne serait pas, selon vous, ça ne serait pas seulement une question, j'allais dire, électoraliste, une question de campagne, c'est un problème de fond.
C'est un problème de fond et qui en France est d'autant plus grave et plus compliqué pour Manuel Valls en l'occurrence, puisqu'on parle de lui aujourd'hui.
Oui, parce que lui, il incarne ça.
Oui, mais parce qu'il y a aussi deux phénomènes. Le premier, c'est qu'en France, il y a une gauche de la gauche traditionnellement plus forte qu'en Italie et en Espagne encore. Et d'autre part, pour les raisons qu'on a rappelées, c'est que pour cette fois-ci, dans l'élection présidentielle, les deux positions extrêmes de la gauche, la gauche de la gauche et la gauche plus sociale libérale, sont incarnées par deux candidats Mélenchon et Macron. Donc le dilemme stratégique est vécu encore plus intensément.
Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour Manuel Valls. D'abord, il y a un sondage, en effet, qui a été publié hier. Alors, on va rappeler avec toutes les précautions d'usage que sur la primaire, on va être extrêmement prudent, bien sûr, concernant les sondages. Mais enfin, il est quand même très nettement en tête dans cette enquête d'Harris Interactive. Quasiment tous les ministres le soutiennent. Mais alors ça, est-ce que c'est vraiment un avantage ? Nathalie Saint-Cricq.
Je pense que ça.
Même Bernard Cazeneuve, on dit qu'il pourrait.
Normalement, Bernard Cazeneuve devrait donner des signes. Je pense que oui, que pas tous les ministres ne pèsent pas de façon, mais ça donne quand même l'impression que ce sont des gens. C'est des gens comme Bernard Cazeneuve sont des gens sérieux. Donc quand il soutient Manuel Valls, ça le crédibilise. Il n'a pas forcément besoin de ça, mais c'est mieux que s'il était tout seul et que tous les gens du gouvernement l'abandonnaient. Mais je suis pas sûr que ça change grand chose sur le fond. Du Parti Socialiste.
C'est mieux, mais c'est pas forcément un avant il aura peut-être décisif.
Il aura peut-être pas tous les ministres. Il y en a une qui l'aura peut-être pas. C'est Ségolène Royal.
Ah oui. Hein oh, bah oui.
Il a 150 députés.
Ça, de toute façon, ils peuvent pas se voir en peinture. Ouais.
Ils peuvent pas se voir en peinture, même s'il a soutenu.
Même si Macron n'existait pas.
Et pourtant, Valls a soutenu Ségolène Royal en 2007, 6, 7.
Il a 150 députés avec lui.
Oui, oui.
4 présidents de région. Ça peut jouer pour les mobilisations locales et régionales. Et en même temps, attention. En même temps, l'expérience historique, notamment, excusez-moi, mais en Italie, on a des grosses expériences de primaire, montre que quand vous avez ces soutiens-là, ça peut jouer contre vous parce que c'est la recherche, c'est la recherche de l'outsider. C'est la recherche de quelqu'un qui, justement, n'incarne pas ce qui vient de se dérouler.
Mais
on recherche le nouveau.
Ça peut être Hamon, par exemple. Les élus dont vous parliez à l'instant, ils peuvent peut-être, en effet, mobiliser le jour de la primaire.
Non, mais le cas Juppé, quand même, doit nous faire réfléchir. Je pense que, souvenez-vous, Juppé, un mois avant, il faisait déjà son gouvernement. Ouais. Donc moi je pense que ça peut...
Hamon c'est Fillon.
Non, mais ça peut aller à rebours. Je veux dire, par là aussi, vous savez, cette fameuse discussion sur les élites et puis le peuple, etc. L'idée que Manuel Valls puisse être soutenu par les institutionnels, les éléphants, peut être aussi contre-productif pour des électeurs qui disent « mais non, moi j'ai pas envie, ça fait 5 ans que je les critique, je veux pas aller maintenant les soutenir ».
J'aimerais qu'on parle de Ségolène Royal, parce que vous avez... comme ça, lancer cette petite phrase, lancer ce nom en disant il y aura un problème avec Ségolène Royal. Ouais. Alors, elle soutiendra pas Manuel Valls, selon vous ?
Écoutez, je suis pas, je la vois pas tous les jours, mais
elle a plutôt envie de soutenir. Macron.
On dit qu'elle a une tendresse, et ça, je peux quand même l'affirmer pour Emmanuel Macron.
Mais ça cache pas.
Elle le dit clairement quand vous la voyez. Elle dit mais. Je lui donne des conseils depuis le début, même quand il était au gouvernement. Elle a aussi un compte à régler avec le Parti Socialiste, il ne faut pas l'oublier. C'est qu'en 2006-2007, surtout, puisque 2006 elle a gagné la primaire, mais en 2007, on ne peut pas imputer au non-soutien du parti sa défaite, mais quand même, ils l'ont bien aidé à perdre.
Ils lui ont savonné la planche.
Ils lui ont savonné la planche, il y avait un peu de machisme là-dedans, il ne faut pas quand même le nier, il faut même le dire. Et comme elle est, en plus, d'un tempérament politique assez imprévisible, eh bien, il y en a beaucoup qui avaient du mal à suivre aussi, ils ne savaient pas où la voir. Mais le problème du soutien de Ségolène Royal, qui est quand même une figure centrale de la vie politique française, qu'on l'aime bien ou pas, est-ce que c'est un atout d'avoir son soutien aujourd'hui ? Parce que elle a encore son club de fans. Je pense qu'on peut dire, comme pour Nicolas Sarkozy, qu'elle a ses soutiens, des gens qui l'apprécient beaucoup. Mais elle a aussi beaucoup, beaucoup de détracteurs. Et est-ce que c'est un atout ?
Est-ce que pour Emmanuel Macron, l'idée de faire un ticket avec Ségolène Royal est une option ou c'est...
Je peux même vous dire que chez Macron, ils s'apprêtent plutôt à... ils préparent l'atterrissage de Ségolène Royal chez eux. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça se passe.
Qu'est-ce que ça veut dire l'atterrissage, excusez-moi ?
Si elle vient soutenir, si elle déclare sa flamme pour Macron, il faudra quand même un peu gérer derrière.
Oui. Éric Cotorino ?
Non, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, comme on vit quand même la crise du résultat politique depuis au moins deux mandats, tout soutien qui vient de la classe politique traditionnelle n'est pas vraiment à mettre dans la rangée des plus. Et je pense que Macron, de ce point de vue-là, le fait. En effet, il a pas 150 parlementaires, il en a, mais il a Gérard Collomb à Lyon, etc. Mais je pense que ça viendra d'ailleurs les soutiens marquants. Ce sera pas ceux du personnel politique, de mon point de vue.
Moi, je ne suis pas entièrement d'accord, parce que je pense que soit on voit Ségolène comme une espèce de un personnage politicien, soit on se souvient que Ségolène Royal a osé dire qu'on pouvait avoir un drapeau à sa fenêtre et que ce n'était pas quelque chose de ringard et de
droit. Oui, ça,
c'est vrai. Pouvait, alors, parlant de l'encadrement militaire, en disant qu'il y avait un problème de délinquance avec certains jeunes, c'est-à-dire que si c'est la démocratie participative, c'est-à-dire une façon de faire la politique différemment, le côté quasi christique des deux quand on les voit en meeting,
le numérique,
on retient et si on vend de Ségolène une façon un peu différente, une anticipation sur la façon de faire de la politique, à ce moment-là, elle ne sera pas un boulet. Elle n'est pas, je pense pas, repérée par les gens comme une institutionnelle, comme une apparatchik.
C'est vrai.
Elle est repérée comme quelqu'un.
Et il y a aussi le positionnement idéologique, parce qu'elle-même a voulu opérer le virage vers le centre lorsqu'elle était.
C'est plus gênant quand elle est castriste.
Oui. Ça, c'est vrai que c'est pas un argument.
C'est moins gênant que si Martine Aubry se mettait à soutenir Emmanuel Macron, ce qui, même en rêve, n'arrivera jamais.
Ça paraît. Non, elle avait dit, souvenez-vous, ras-le-bol de Macron. Emmanuel Macron sera donc le grand absent de cette primaire, mais il hante cette élection. Pas un jour sans un nouveau soutien ou une nouvelle une de magazine. L'ancien ministre de l'économie est l'obsession des socialistes et certains d'entre eux n'hésitent plus à le rejoindre. Yacine Mili et Ohan Nguyen.
En ce début d'année, Jean-Christophe Cambadélis avait rendez-vous avec les journalistes pour les traditionnels vœux à la presse. Des vœux teintés d'amertume, car 2017 démarre avec une épine dans le pied de la gauche, Emmanuel Macron. Et pour tenter de la déloger, Jean-Christophe Cambadélis contre-attaque.
Monsieur Macron, qui a fait une percée remarquable et remarquée au centre de l'échiquier politique, l'a fait sous le thème du ni droite ni gauche. Mais il indique par là même au pays qu'il n'a pas d'alliance majoritaire, ni à droite ni à gauche.
C'est devenu palpable, au PS, Macron fait peur. À tel point que Solferino a pris des mesures radicales. Pour les prochaines législatives, les candidats qui affichent leur soutien à Macron ont l'interdiction de porter l'étiquette PS. Le message est clair, soit macroniste, soit socialiste. Sur cette liste noire du PS figure entre autres le nom d'Arnaud Leroy. Ce député des Français de l'étranger soutient Macron et il assume. De toute façon, pour lui, le PS est déjà à bout de souffle.
Moi, je crois surtout qu'on est en train d'écrire une nouvelle page. Donc, le PS est né en 71, sous sa forme actuelle. Il y a des cycles. Vous voyez, dans le même cycle historique, vous avez eu trois recompositions à droite, entre le RPR, l'UMP, maintenant les Républicains, l'UDF qui est devenu l'UDI, sans passer par l'ensemble des petites composantes centristes. Donc, on voit très bien que rien n'est figé dans on va dire, la carte des partis au niveau français. Le PS annonçait depuis un certain temps chercher un mode de dépassement. Moi, je crois que c'est nous qui le proposons aujourd'hui avec En Marche.
Emmanuel Macron attire de plus en plus de regards, y compris ceux de quelques figures emblématiques du PS, comme Ségolène Royal. La ministre de l'Environnement aime beaucoup le jeune candidat d'En Marche, et ça se voit de plus en plus. Si en coulisses, elle l'aurait reçu pour lui donner quelques conseils, en public, elle reste plus prudente. Pas question d'annoncer son soutien tout de suite. Mais ces derniers jours, elle a fait quelques pas de plus vers l'ancien ministre de l'économie.
J'observe avec bienveillance ce qui est fait, ce qui est dit, parce que c'est quelqu'un qui est tourné vers le futur, c'est qui essaye d'inventer le futur, qui connaît bien aussi les enjeux de la mondialisation.
Emmanuel Macron, l'incontournable, y compris dans la bouche de ses adversaires. La primaire de la gauche n'est pas encore terminée, que certains candidats lui tendent déjà la main. C'est le cas de Vincent Peillon et de Benoît Hamon.
Si le 29 janvier, je suis choisi, et si les électeurs de gauche me font l'honneur de me choisir comme leur candidat, la première chose que je ferai, ce sera de proposer à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot que nous nous rencontrions, séparément sans doute au départ, mais pour voir sur quelle base nous pourrons organiser le rassemblement de la gauche.
Vous pourriez travailler avec lui ?
Je peux travailler avec tous ceux
qui se mettront... travailler avec vous ?
Je peux travailler avec tous ceux qui se mettront d'accord sur des idées. Sur des idées. Cessons cette France de petites phrases, de postures personnelles, d'incarnation.
En choisissant de ne pas participer à la primaire de la gauche, Emmanuel Macron semble avoir choisi une stratégie payante pour l'instant. Avec plus de 20% des intentions de vote, certains sondages le qualifient même dès aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle face à François Fillon.
Oui, c'est vrai que ça a quand même fait du bruit, ce sondage. Hein. Elabe, qui met pour la première fois Macron au deuxième tour. Alors, c'est en cas de victoire oui. d'Arnaud... Non, mais on va tout dire. Voilà. Hein, on va tout dire, on va tout dire. En cas de victoire de Montebourg à la primaire...
Si Bayrou
n'est pas... Regardez, c'est très bien expliqué. En effet, dans ce tableau, il est quand même à 24%. Fillon à 26%, Marine Le Pen à 22%. C'est pas rien, 24%, Yves Tréhard.
Non, c'est ce qui fait, je pense, l'étonnement de tous les observateurs politiques. C'est que quelqu'un qui était inconnu, quelqu'un qui n'a pas de parti, quelqu'un qui n'est pas ni de gauche ni de droite, parce que c'est une fausse, et d'ailleurs, à mon avis, il s'est trompé, il est et de droite et de gauche.
Oui.
Et c'est ça qui en fait l'intérêt, d'ailleurs, pour ceux qui cherchent. Il a une solidité, parce qu'on le compare, alors je sais pas, on a dû le comparer à une vingtaine de personnes, à Gigi Essès, à Loïc Hanouer, à Giscard d'Estaing, faut arrêter, je pense que ces comparaisons, à Kennedy même, enfin bon, faut arrêter tout ça, le Kennedy français, je crois qu'il a une singularité, c'est que il arrive dans un paysage politique où il y a énormément de Français qui se sont détournés depuis longtemps de la politique, et que ceux-là, et c'était assez visible, je crois, à la porte de Versailles quand il a fait son discours, ceux-là reviennent à la politique avec Macron. C'est-à-dire tous ceux qui s'abstenaient, qui se désintéressaient du discours, se disent, il y a un type qui nous dit, il nous dit pas je, il nous dit vous, c'est vous qui décidez. C'était tout le rythme de son discours de la porte de Versailles. Mmh. Et ça les interpelle, si vous me permettez cette expression.
Mmh. Question SMS, il aura les 500 parrainages? Oui. Nous demande cet internaute.
Oui, enfin, il n'a pas l'air d'être inquiet. Hein.
Ça sera une formalité, vraiment, à ce point-là?
Oui. Enfin, bon. Je pense. Enfin, c'est ce qu'ils disent.
Au moment de mettre le bulletin dans l'urne, certaines de ces personnes que vous citiez à l'instant, ces gens qui n'étaient plus intéressés par la politique, ne vont pas avoir un petit doute quand même de donner leur voix à quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui a été ministre pendant...
48 ans. Il défie toutes les lois de la science politique et de l'histoire politique de la Ve République. Ça, c'est clair et net. On l'a rappelé. Il n'avait pas de parti. Il n'a pas d'expérience. Il est jeune. Enfin, bon, c'est quelque chose de phénoménal de ce point de vue-là. Bon, mais le problème, c'est de savoir s'il va véritablement cristalliser et surtout durer. C'est long, une campagne électorale. Et quand même, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ce qui va se passer le 22 et le 29 janvier. Si la participation est importante, si Valls gagne, si ses adversaires se rallient à lui, évidemment, Manuel Valls.
Il peut y avoir une dynamique, vous voulez dire.
C'est ce qu'il espère. Je ne sais pas si ça se passera, mais c'est clair que c'est le pari de Manuel Valls. Hein, c'est d'engager une dynamique et d'essayer de s'attaquer à l'électorat de Macron. Ce sera difficile, parce qu'on lui dira, mais qu'est-ce que vous avez dit là pendant 15 jours, vous êtes reparti à gauche, et il essaiera de dire, oui, mais moi, j'ai été Premier ministre, j'ai l'expérience, etc. Donc, beaucoup de choses vont dépendre du résultat de la primaire, du choix de François Bayrou, et puis de la capacité politique de Macron, parce que c'est long une campagne électorale. Hein. Alors, c'est un homme qui a plein de capacités, plein d'aptitudes, etc. Mais c'est une première, effectivement, très dure pour lui. Donc, attention, hein, il y a une sorte d'engouement pour le moment. C'est vrai qu'il y a un contexte.
La bulle tient. Nathalie Saint-Cricq.
Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu gonflé, la bulle, hein, parce que la bulle, c'est sympathique, mais enfin, la bulle, elle tient le coup pour l'instant.
C'est une grosse bulle.
C'est une énorme bulle, donc je pense qu'il faut arrêter d'employer le mot bulle. Après, ce qui est évident, c'est que du côté de chez Emmanuel Macron, ce qu'on espère, c'est une primaire très peu suivie, c'est-à-dire en gros 1 million, 1,2 million, c'est genre le truc qui n'intéresse personne, et qui conseille. Éventuellement gagné, ça serait le rêve pour lui, par Benoît Hamon ou par Arnaud Montebourg. Oui. C'est une espèce de repoussoir d'opposition. Oui. À ce moment-là, lui, le calcul, c'est que tout explose, pour le coup, et qu'il y a une partie des gens qui veulent pas de ça, qui partent chez lui, c'est-à-dire les valsistes, en clair, qui repartent chez Macron, et dans ce cas-là, les autres qui vont du côté de Mélenchon. Et pour le coup, on se retrouve avec un chemin, une voie un peu plus dégagée pour lui. Voilà. Après, 1 million, effectivement, pour la primaire partie socialiste, ça serait... Mais vous avez vu, Jean-Christophe Cambadélis, il dit 1,5 million. Donc, ils ont un objectif qui est quand même pas très, très haut.
À comparer aux 4 millions, 4,5 millions de la primaire de droite.
Que les gens se moquent du... Pardon, pardonnez cette grossièreté. Ça veut dire que si c'est 1 million, 1,5 million, ça veut dire que les gens n'en ont rien à faire du PS et qu'ils l'ont déjà enterré.
C'est vrai. Mais je pense qu'en... Éric
Fautorino.
Je pense qu'en plus, pour ajouter à ce que dit Nathalie Saint-Cricq à l'instant, c'est qu'on se focalise un peu sur Macron et la gauche. Mais Macron, c'est aussi Macron et la droite. Oui. Et l'autre histoire est intéressante. Oui, elle est peut-être même plus intéressante d'une certaine manière. Je veux dire par là que je pense qu'il y aura un noyau dur, si je peux dire comme ça, de jupéistes ou de vieux de gaullistes, de gens qui sont vraiment, qui ne supportent pas Fillon, qui ne supportent pas son programme, son côté réac, tout ça, et qui, à tout prendre, préféreront aller vers quelqu'un comme Macron, parce que Macron, il a une dynamique. Parce que tous ceux qui se présentent au sein du PS, au sein de la primaire de la gauche, leur dynamique, elle est compliquée, parce qu'effectivement, il y a le bilan de celui qui ne vient pas le défendre, c'est-à-dire Hollande, mais enfin, certains en sont tributaires, c'est Valls, d'autres qui ont toujours été contre ça, mais qui vont essayer d'être un marqueur plus à gauche, alors que Macron, lui, il a été dans ce gouvernement, mais il a toujours dit les choses sur la déchéance de nationalité, ça, souvenez-vous, quand il a dit « mais c'est pas ça le problème principal, c'est l'économie, etc. », il a toujours eu cette petite voix singulière. Et je pense que c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, peut-être en fera-t-il, et des fatales, mais il n'a pas fait d'erreur dans son timing, dans la manière dont il s'est exprimé, d'abord l'économie, puis sortant de l'économie, etc. Donc voilà,
ça peut arriver. Le PS a juste une arme contre Macron, c'est les investitures pour les législatives.
Oui, mais vous avez vu.
Vous croyez pas que c'est important?
Non, mais c'est vrai, mais si vous voulez.
J'explique juste, si un député socialiste soutient Emmanuel Macron, il n'a plus l'investiture PS pour les prochaines législatives.
Oui, ça vous paraît pas. Non, parce qu'à mon avis, tout ça va être rebattu après.
D'accord.
C'est vraiment. Regardez, les investitures à droite avaient été faites en fonction beaucoup de Sarkozy. Sarkozy battu, Fillon est en train de revoir. Est en train de revoir tout ça. Là où ça va être intéressant aussi pour Macron, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a les circonstances, alors les circonstances à gauche, à droite, hein, mais quand on va rentrer dans le dur du programme, et contrairement à ce qu'on dit, il ne dit pas rien, Macron. Et là, il est aussi... il s'expose, Macron. Quand il dit « je vais retirer la gestion de l'assurance chômage au paritarisme et que je veux la faire récupérer par l'État », mais attendez, c'est pas rien quand on dit il veut casser la sécurité sociale, Fillon. Mais là, ce que dit Macron, c'est une petite bombe, hein. Je veux dire, ça passe pas comme ça. Quand il dit Macron sur le cannabis, c'est un gros débat, ça aussi. Donc, il y a aussi, après, il va falloir qu'il tienne le coup sur ses positions et que ses positions soient, je dirais, adoptées et acceptées par son électorat de droite et son électorat de gauche.
Marc
Lazare. Ça, c'est pas simple.
Oui, je suis tout à fait d'accord, ça sera plus difficile. Alors, il a aussi un positionnement très intéressant, parce qu'il va à contre-courant de l'opinion publique, c'est sur les questions européennes. Hein, oui, il est très, plus. Très pro-européen, mais du coup, ça peut plaire à tous ceux qui sont pro-européens, mais actuellement, c'est quand même une minorité de la population. Et bon, ouais. Alors, ça va être à la fois un atout pour lui et un problème. Et puis, il y a deux questions sur lesquelles il est encore très, très faible et qui peuvent être déterminantes pour une campagne présidentielle. C'est les questions internationales, qui peuvent jouer. On ne sait pas quelle crise international peut éventuellement arriver d'ici l'élection présidentielle, et d'autre part sur les questions de sécurité.
Ouais. Et si jamais,
si jamais il y avait d'autres attentats d'ici l'élection présidentielle, il a une faiblesse, y compris son jeune âge, son absence d'expérience, peut peser contre lui et peut favoriser du coup à gauche une éventuelle candidature de Manuel Valls s'il emporte la primaire.
Bon, tout le monde est d'accord, il a eu raison de ne pas participer à la primaire. Nathalie Saint-Cric.
C'est une évidence.
Ça, c'est évident.
Il a une cohérence, pour le coup. Oui, il considère que c'est la quintessence des vieux partis qui essaient de se battre pour se projeter.
Et il pourra se réconcilier avec le PS.
C'est plutôt un légende.
Un jour ou l'autre.
C'est ceux qui iront à la soupe.
S'il gagne, ils viendront le voir. Il y a la moitié du PS qui considérera que c'est l'avenir. C'est pas à lui. C'est pas qu'il lui ira à quatre pattes pour essayer de leur dire « Je suis désolé, les mecs, j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire ». C'est simplement, y compris pour les investitures législatives, s'il y a un mouvement. Oui. Si la primaire à gauche se termine avec un candidat avec 1 million ou moins, eh ben les députés socialistes, ils seront Macron compatibles et ils iront se faire investir par Macron pour les législatives.
Imaginons que le candidat de la primaire de gauche, quel qu'il soit, ne se qualifie pas pour le deuxième tour, mais que Macron, lui, se qualifie. Bien ça sûr. Change tout. À un moment donné, les voix de Macron porteront.
La fascination des médias, ça continue. Je disais que deux magazines, cette semaine, deux hebdos font leur une sur Macron. Bon, il fait vendre.
Ça, on le sait
maintenant. Mais est-ce qu'au-delà de ça, s'il fait vendre, c'est qu'il intéresse, c'est qu'il intrigue. C'est quoi Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il est hors parti et donc hors système, parce qu'il est jeune,
on va dire la vérité aux téléspectateurs, c'est parce qu'il exerce une certaine curiosité, il suscite une certaine curiosité chez nous. Nous, on est journalistes politiques.
Enfin, s'il faisait pas vendre Yves Tréhard, il serait pas en ligne.
Évidemment,
il y a une dimension de séduction.
Pour nous, il est neuf. Enfin, je veux dire, les autres, on les fréquente depuis des années et des années. Lui, il arrive avec un discours nouveau, avec plutôt... Alors, il a une force fabuleuse, d'ailleurs, en politique. Il y en a certains qui devraient prendre de la graine, d'une certaine façon. C'est qu'il sourit. Il sourit, il n'est pas dans l'agression.
Mais non, mais... qui, là ?
Non, mais il y en a beaucoup, quand même, qui sont... notamment, hier, Manuel Valls, il a mis du temps. Hein, il a
un menton et un sourire. Le menton, il est du côté de Valls.
Et donc, mais En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que les médias ne font pas les candidats. Ça, c'est faux. Oui.
On commence à entendre aussi.
Non, c'est. Alors, on peut dire c'est le candidat des médias. Ségolène Royal, on disait la même chose. Ségolène Royal, elle a perdu. Et d'ailleurs, le mois de janvier a été déterminant. Le mois de janvier est souvent déterminant. Hein.
C'est là que tout se cristallise, hein, fin janvier, début février.
Et l'intérêt médiatique ne signifie pas le vote pour.
Ben voilà.
On peut être très intéressé à acheter les hebdomadaires dont vous parlez, et se délecter de voir les photographies d'Emmanuel Macron et de son épouse. Et puis, au moment de voter, vous le disiez tout à l'heure, de se dire, attends, est-ce que c'est... Bon. Donc, attention.
Nathalie Saint-Cric.
Effectivement. Alors, attention à Emmanuel Macron de ne pas donner l'impression de jouer la com' à fond, parce que ça aussi, ça peut être un écueil. Les gens considèrent qu'il y en a trop et que Paris Match 1, 2, 3, ça commence à bien faire. Et puis, c'est vrai qu'il faut dire... On ne l'a pas essayé, c'est-à-dire qu'on a, on a tendance à le regarder avec, comme si elle incarnait une certaine fraîcheur, et puis parce que c'est une personnalité romanesque. C'est-à-dire tout ce qu'on peut savoir de son passé, alors pas que pour nous, pour les gens aussi, que ce soit son histoire personnelle, que ce soit quelqu'un qui joue du piano, qui lit on n'est pas entouré de politiques qui lisent des livres. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai le sentiment, ça ne m'a pas frappé. Lui, il fait de la musique, il est au conservatoire, enfin, il s'intéresse à des choses, c'est une sorte de héros romantique. Alors, je ne suis pas du tout en transe devant Emmanuel Macron, mais c'est par rapport à un certain... Vous vous souvenez, avec Bruno Le Maire, tout le monde disait, c'est génial, il parle allemand, il écoute de la musique. On était absolument...
C'est une dimension très importante.
Il a une dimension personnelle qui fait...
Alors, un mot de l'infotorisme.
Oui, un mot, parce que des gens comme Juppé ou comme Fabius ont toujours fait oublier qu'ils étaient normaliens, qu'ils étaient des hommes... cultivé.
Surtout quatre mots de vocabulaire, Laurent Fabius.
Et Emmanuel Macron, lui, est un homme, effectivement, de culture. C'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui écrit. Donc, je pense que ça aussi, ça fait partie de la dimension qu'on doit avoir si on veut diriger un pays comme la France.
Revenons à Manuel Valls, au PS. Manuel Valls qui incarne, avec d'autres concurrents de la primaire, une génération Jospin. Ils étaient tous déjà là en 1997. Vincent Peillon, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Ils incarnaient une nouvelle vague et un front derrière Lionel Jospin. Mais depuis le 21 avril 2002, et la défaite de Jospin, le PS n'a cessé de se fracturer. Marie-Charlotte Duluc et Pierre Dehorne.
On les appelait les grands garçons, les espoirs, les enfants gâtés du socialisme. Quatre mousquetaires élevés dans la couveuse Lionel Jospin et qui très vite vont avoir des ambitions.
L'appareil du Parti Socialiste est occupé par ces gros animaux immobiles qui bouchent l'horizon et qui se battent entre eux.
Biberonnés à la communication politique formée par le parti, les trentenaires d'alors sont encore peu connus et font leur classe sous l'ère Jospin. En 95, le président des jeunes socialistes Benoît Hamon joue les chauffeurs de salle pour la campagne présidentielle.
On contrôle plus. Il y a trop de jeunes.
Il devient le conseiller jeunesse du patron du Parti Socialiste. Manuel Valls, lui, découvre Matignon en 97 et gère la communication du nouveau Premier ministre Lionel Jospin.
Nous allons d'ores et déjà commencer à nous organiser, à prévoir les déplacements, les affiches, les slogans, le matériel en direction de nos candidats.
À l'époque, l'ambition de ces quatre dirigeants est évidente. Hein. Arnaud Montebourg incarne la flamboyance de l'ambition. C'est un personnage un peu balsacien. Manuel Valls, voilà, a des ambitions très affirmées. Hein, il est là pour longtemps. Benoît Hamon construit quelque chose de plus collectif. Il a des réseaux à la gauche du parti. Et Vincent Peillon incarne une figure littéraire, philosophe, très bon communicant, mais sur un autre registre que Valls. Hein, il est, voilà, il a beaucoup de fond.
Leurs espoirs d'ascension sont balayés le soir du 21 avril 2002. Lionel Jospin fait ses adieux.
J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle.
Tout est à reconstruire pour cette nouvelle génération. Les ambitieux n'ont pas de temps à perdre. Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Benoît Hamon réclament un vrai virage à gauche et lancent le nouveau Parti Socialiste.
Nous ne voulons pas donner un petit coup de Ricolin en blanc sur la façade, car quelques poutres paraissent fragiles et bien moulues.
La guerre des égaux. Et les désaccords ont raison du NPS, dissous seulement 2 ans plus tard, en 2005. Pour les présidentielles de 2007, les jeunes loups s'effacent derrière les éléphants. Mais en 2011, plus question de laisser sa place. Valls et Montebourg prennent la lumière sous les projecteurs des primaires de la gauche, avant de rallier François Hollande. C'est sa victoire qui rassemble enfin les quatre hommes sous les ors de la République. Tous obtiennent un ministère. C'est le temps de l'entente. Jusqu'à ce coup d'éclat du ministre du redressement productif, le plus expansif des quatre, adressé au président.
Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement, au président. Hein.
À la fin du quinquennat, pas un seul n'est resté au gouvernement. Mais en campagne pour les primaires, un nom revient dans chaque discours.
On nous appelait les bébés Jospin en 97, quand on a été élus, vous rendez compte, il y a 20 ans. Et c'est vrai que, et en tout cas pour moi qui était très proche de lui, j'ai énormément appris à son contact. Et je crois d'ailleurs que... il n'aurait pas été là, je ne me serais pas engagé en politique.
Le PS est dans une telle désespérance aujourd'hui qui se raccroche pour incarner un peu l'espoir à des expériences positives. Et globalement, l'expérience Jospin est positive.
Une référence à double tranchant. Car s'il s'approprie l'héritage Jospin, tous espèrent ne pas connaître le même sort. Un retrait brutal et subi de la vie politique.
Marc Lazare a regardé très attentivement, comme vous bien sûr, ce reportage. Vous, les bébés, vous n'aimez pas cette thèse des bébés Jospin.
Non, j'aime
pourtant,
pas.
Pourtant, ils assument tous, oui. Ils reprennent tous l'héritage.
On cherche toujours des filiations. Hein, donc, ouais. Non, je suis pas d'accord avec la formule génération Jospin.
Pourquoi ?
Je vais vous expliquer. Ça dépend d'abord ce qu'on entend par génération. Si génération, c'est un phénomène lié à la date de naissance, effectivement, c'est des gens qui sont nés entre 1960 et 1967. Le plus vieux, c'est Payon, 60. 1962 pour Valls et Montebourg, et 1967 pour Benoît Hamon. Donc c'est des gens qui sont arrivés en politique, en responsabilité politique, à la fin des années 80, début des années 90. Alors ils ont croisé Jospin, c'est vrai. Mais il n'y avait pas que Jospin, il y avait Fabius aussi à l'époque. Et par exemple, quand vous prenez les quatre, Valls, effectivement, est très proche de Jospin, il s'occupe de la communication. Hamon va être aux côtés du premier secrétaire Jospin, 95-97, des questions de jeunesse. Mais d'après moi, son expérience la plus importante, plus déterminante pour lui, qu'on retrouve dans son programme, c'est le fait qu'il était aux côtés de Martine Aubry. Il a été au ministère de Martine Aubry. Montebourg, Vincent Payon est proche de Jospin, mais en même temps tenu à l'écart, sauf sur une question qui est la critique de Tony Blair à partir de 1997, parce qu'il a effectivement cette formation de philosophe. Et quant à Montebourg, il ne faut jamais oublier l'affrontement qu'il a avec Jospin en 2001, puisque Montebourg propose de traduire en cour de haute justice le président Chirac pour différentes affaires liées au financement du RPR, le financement au culte du RPR et d'autres questions sur Paris, et que Lionel Jospin s'y oppose. Et à ce moment-là, oui. Il y a une rupture entre Montebourg et Jospin.
En tout cas, ce qui nous intéressait aussi dans le rapport à Jospin, c'est que on a le sentiment que c'est la dernière fois que la gauche a réussi à être à ce point unie, non, Éric Fotorino? Finalement, il a la gauche plurielle. Toutes les familles étaient rassemblées, bon, oui, jusqu'en 2002.
C'est vrai, mais alors là aussi, il faut refaire un petit peu d'histoire. C'est-à-dire qu'en 1995, on attend Jacques Delors. Jacques Delors, finalement, dit qu'il n'y va pas. Et qui est le candidat naturel, souvenez-vous? Enfin, naturel, qui ne l'est pas, c'est Emmanuel Hitt, qui est patron du PS. Et finalement, dans une primaire, vraie primaire au Parti Socialiste, sort Jospin. Et effectivement, 97, bon, il perd la présidentielle, mais enfin, il fait un score quand même qui n'est pas si mauvais que ça. Et 97, il va devenir Premier ministre. Et là, il aura cette chance, entre guillemets, de pouvoir construire quelque chose pendant 5 ans avec la croissance. Donc effectivement, cette gauche plurielle qui va exister là, va lui permettre de se mettre sur une trajectoire présidentielle. Mais en même temps, cette gauche, il y avait beaucoup, beaucoup aussi de contestations, beaucoup de discussions. Alors, même si la discussion est aussi propre à la gauche.
Je me tourne à nouveau vers vous, Marc Lazare. Il y a toujours eu des courants. Oui. Dans ce parti, il y a toujours eu comme ça des chapelles et ça marchait. Pourquoi maintenant ça marche plus? On a l'impression qu'ils ont décidé qu'ils pouvaient plus se réconcilier et que c'était fini.
C'est effectivement une question très intéressante parce que il n'y a plus un leader qui avait l'autorité à l'époque de François Mitterrand, par exemple, hein, puisqu'on prend toujours cette référence. Bien sûr, il a eu le grand défi Michel Rocard, mais Michel Rocard a capitulé devant François Mitterrand. Et donc, il y avait une forme, entre guillemets, de charisme de Mitterrand qui faisait que ces courants coexistaient avec beaucoup de batailles internes pour le moment des congrès, etc.
On ne dit pas que c'était simple.
Il y a une deuxième chose, je pense, qui joue de plus en plus. c'est le fait que dorénavant, la présidentialisation de la vie politique fait que c'est plus simplement des courants qui parfois s'affrontaient sur des vrais contenus, parce que dans les années 70, l'affrontement entre Chevènement, par exemple, et Rocard, il y avait du véritable contenu, c'est-à-dire quel type de société, quel type de rapport à l'État, etc. Ça, ça a disparu. Aujourd'hui, c'est des écuries présidentielles. Et donc, c'est surtout des batailles d'égo, au sens de la personnalité. Et puis, la troisième élément fondamental, c'est qu'aujourd'hui, cette gauche, en France comme ailleurs, est effectivement dans une profonde crise stratégique, identitaire, sociologique, organisationnelle. Et donc, c'est une situation extraordinairement grave.
Question SMS. Qui a tué le PS ? Alors, c'est comme le Cluedo, hein, on a plusieurs suspects. François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron ou les frondeurs, Yves Tréhard ?
Et peut-être François Mitterrand.
Ah, carrément.
Mais pourquoi
on
pas ?
On remonterait aussi loin.
Ben oui, écoutez, le PS, je suis désolé, mais il y a eu l'expérience, effectivement, Jospin, mais il a été socialiste, le gouvernement Jospin, pendant un an, hein, quand il a fait les 35 heures. Et comme, d'ailleurs, quand il y avait au pouvoir François Mitterrand, ça a duré 2 ans, jusqu'en 84. Après, justement, c'était la période de l'argent roi, de tout ça, de la bourse. Vous prenez la période Hollande, le socialisme à la Hollande, le discours du Bourget, il a été valable pendant 18 mois. Hein, au vœu de 2014, c'est fini, c'est le pacte de CICE, c'est tout ça. Donc, je dirais que le problème du socialisme en France, alors on va revenir très loin en arrière, et Marc Lazin est plus à même que moi de raconter ça, mais on a toujours dit que le Parti Socialiste en France n'avait pas fait son Bad Godesberg de 1959, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais, si vous voulez, fait sa mue pour être prêt à exercer le pouvoir. Et en fait, le problème du Parti Socialiste français, c'est qu'il se casse les dents, il se fracasse contre le mur de l'exercice du pouvoir au bout de quelques mois, de quelques années, parce qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il n'y a plus de... Voilà. Il est là le problème du socialisme. Et c'est pour ça que Manuel Valls, d'ailleurs, a mené la fronde quand il était ce qu'il était, et qu'il a dit qu'il fallait davantage de pragmatisme, de réalisme. Je crois que d'ailleurs, dans le tournant de 2014, il n'y est pas pour rien dans le tournant de Hollande, Manuel Valls. Et c'est pour ça aussi que Emmanuel Macron a très vite pris ses distances par rapport à la politique qui a été menée par le gouvernement.
Voici maintenant vos questions SMS et Internet. Plutôt que de tuer le PS, Macron ne veut-il pas reconstruire autre chose à partir des ruines de ce parti ?
Bah oui, on peut probablement comprendre, mais c'est ce que disait Yves, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que Macron veut tuer le PS, si le PS c'est Gérard Filoche, enfin en clair pour faire résumer, ou c'est une espèce de parti qui adore l'opposition, qui trouve que c'est génial de promettre un tas de choses et de refuser la culture du gouvernement. On peut penser que Macron, on va voir après ce qu'il propose, parce qu'effectivement on n'a qu'un morceau de son programme, mais si c'est une espèce de forme de parti social-démocrate moderne et tout, effectivement il aura contribué à le tuer, mais pour le recréer. D'ailleurs c'est ce que Valls veut faire aussi, ils sont pas si éloignés idéologiquement tous les deux.
Sans le soutien d'un parti, comment Macron peut-il avoir une majorité à l'Assemblée nationale, Éric Fautorino ?
Alors d'abord, je crois que, bien sûr, il n'a pas de parti au sens formel, au sens classique du terme, mais enfin, ces marcheurs, ça commence à devenir assez dynamique, et je pense que dans le moment présent, on n'est pas en 1915 ou en 1981, en 2017, c'est peut-être mieux d'avoir des marcheurs en marche qu'un parti socialiste un peu encalminé. Après, moi je pense que, vous savez, il y a un réalisme terrible des politiques, c'est que il aura des soutiens parce qu'il aura gagné. Et donc, franchement, je pense qu'il y aura ça.
Je suis plus sceptique. Je suis plus sceptique, excusez-moi, parce que je pense, tout dépendra, s'il gagne, ce serait d'abord un tremblement de terre politique. Imaginons qu'il gagne la présidentielle. C'est un tremblement de terre politique. Oui. Enfin, c'est un effondrement. Enfin, tout bascule, tout change. Bon. Et dans ce cas-là, oui, il peut obtenir une majorité parlementaire parce qu'il y aura tout simplement plein de gens de droite ou de gauche qui se rallieront et il donnera ses investitures. Mais s'il perd, et là, ça devient beaucoup plus compliqué dès les prochaines législatives et encore plus dans la durée ensuite pour son mouvement. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus difficile.
C'est là où on revient à... On peut faire une comparaison, et j'aime pas trop, mais là j'en fais une quand même. Je me souviens qu'en 2007, François Bayrou avait cristallisé autour de lui un certain engouement de gens qui
étaient... 18%.
18%.
C'est considérable.
Et je me souviens des gens habillés en t-shirt orange,
ouais, bien sûr,
qui se réunissaient et tout. Mais c'est parce qu'il n'a pas su l'entretenir, François Bayrou, parce que tout ça est parti à volo. Ce qui est intéressant aujourd'hui, moi j'ai regardé de près, j'ai assisté comme observateur à tout ça, tous les comités de quartier de gens qui soutiennent Macron, qui n'ont jamais fait de politique, qui sont salariés dans un supermarché, qui d'autres attachés de banque, enfin de tous les milieux, hein, vraiment de tous les milieux, de tous les âges.
Parce que c'est pas parce qu'il est jeune que exactement. Les personnes plus âgées ne sont pas.
Et ça, c'est étonnant, mais alors ça, il faut pouvoir le faire vivre, tout ça.
Et le faire fructifier. Question, quelles seraient les premières mesures prises par Emmanuel Macron s'il était élu président? C'est difficile de répondre à cette question.
Il se passe sa place, oui. Est-ce qu'il le sait
Oui, lui-même n'est peut-être pas...
Écoutez, la première des choses qu'il devra faire, c'est déjà de se constituer une majorité. Vous ne pouvez pas être président...
Nommer un Premier ministre,
se constituer une majorité. Je vous rappellerai que, alors encore une comparaison, mais Valéry Giscard d'Estaing a beaucoup souffert quand il est arrivé, ce n'était pas prévu. Enfin si, après, mais... on sortait du gaullisme, il s'est retrouvé avec une chambre, enfin une assemblée gaulliste, hein, et c'était compliqué. Donc là, il faut déjà avoir une majorité assez stable. Et puis après, bah, il est obligé de s'attaquer à ces gros sujets. Et ces gros sujets, c'est l'assurance chômage, c'est ces sujets économiques, principalement, je crois.
Hein. Il ira en Allemagne, ils vont tous en Allemagne. Ils répondent tous que la première chose
pour
à faire,
premier jour.
C'est aller en Allemagne.
Oui, ce qu'il a dit notamment sur faire se rapprocher le salaire brut du salaire
voilà,
brut. Aussi, c'était une image qui a quand même beaucoup parlé, parce que ça joue sur à peu près 500 euros de plus de pouvoir d'achat. Je pense qu'il fera des choses très concrètes, très simples, d'une certaine manière.
Emmanuel Macron est-il un vrai centriste qui ne veut pas se l'avouer, Marc Lazare?
Je crois que ça serait. Alors là, je pense que ce serait réducteur de le mettre dans cette catégorie du centrisme. Je crois que sa grande idée, c'est qu'effectivement, une certaine phase historique, qui d'ailleurs pas simplement pour la France, mais de l'ensemble des démocraties, est en train d'être tournée. Une page est en train de se tourner et qu'il incarne quelque chose de nouveau, qui justement, c'est ni gauche ni droite ou est gauche et droite, et même au-delà du centre, parce que centre, on pense justement à Le Canuet, Bayrou et tant d'autres figures. Lui, il pense à une nouvelle forme d'organisation de la politique et l'importance du numérique, la manière dont effectivement ces comités sont structurés. Moi aussi, j'ai beaucoup de témoignages en province en particulier, c'est très très fort, de comités qui s'organisent, de gens qui font du porte-à-porte et en même temps de l'outil numérique. Il pense qu'il peut inventer une nouvelle forme de politique. C'est peut-être une illusion, ça s'écroulera peut-être, mais en tout cas, c'est une expérience et regardez les gens qui travaillent autour de lui. Moi, je vois des jeunes étudiants même hein, qui sont impliqués là-dedans. C'est presque une autre génération, hein. Il y a un changement générationnel. Et en particulier, on a fait allusion tout à l'heure à Ségolène Royal, parce qu'avec Désir d'avenir, elle avait compris déjà la première l'importance du numérique. Lui, il est à fond là-dedans. Je crois qu'il est le premier qui a compris l'impact du numérique sur la politique.
On parlait des centristes et de Bayrou à l'instant. Un accord avec Bayrou, c'est de la science-fiction.
François Bayrou considère que c'est Emmanuel Macron de venir le voir. Donc ils se sont vus, ça s'est très mal passé. Parce que c'est Emmanuel Macron qui a dit à François Bayrou, si tu veux me soutenir. Donc là, je pense, vu la façon dont François Bayrou l'a
en traitant
de tous les noms, en l'appelant le banquier Macron, avec des phrases qu'on imagine. Oui, il est pas un peu
changé. Il est en train de changer de ton.
Je veux dire, ils sont sur la même niche en gros, et François Bayrou l'a parfaitement compris.
Comment Emmanuel Macron finance-t-il une campagne commencée très tôt et sans le soutien d'un parti?
Oui, il fait lever des fonds, c'est des dons. Alors effectivement, on l'a vu à New York, on l'a vu à Londres. Il y a effectivement des dons individuels. Alors c'est
7 500 euros.
Par personne. En quoi Emmanuel Macron se différencie-t-il de la droite?
Ah si, alors je pense qu'il y a quand même quelques différences. Sur le plan économique, il y a aussi des différences indéniables, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même libéralisme que celui de François Fillon. Je dirais que d'une certaine façon, mais c'est compliqué, mais l'État est quand même moins impliqué peut-être avec Macron qu'avec Fillon. Mais c'est sur les questions société où là il est loin de François Fillon par exemple sur tout ce qui est probablement éducation. Oui. On n'en sait pas encore
très
beaucoup.
Important pour lui.
Oui, mais c'est très important effectivement pour tout ce qui est. On parlait du cannabis, même si je ne sais pas si c'est central, mais enfin ça agitera nécessairement l'Orderneau. Toutes ces questions-là, il est le côté libertaire, si vous voulez.
Et qui le différencie de Manuel Valls aussi.
Qui le différencie
de Manuel Valls.
Et sur la laïcité, sur la question de la laïcité. Les questions d'identité, de laïcité arrivaient à devenir prégnantes dans la campagne. Oui. Sur la laïcité, il a une vision très économiste des choses.
Ouais, ouais.
Et sur les valeurs sociétales, national, c'est plus complexe.
Pourquoi les fonctionnaires se détournent-ils de plus en plus de la gauche, Éric Fautorino?
Je pense que bon, ça a été évidemment pour eux une soupe à la grimace depuis assez longtemps maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, ils étaient ceux qui étaient choyés par la gauche depuis toujours. Et puis, on commence à rivaliser, même si j'ai vu que Manuel Valls commençait maintenant quand même à reculer un peu en disant non, on va créer des postes de fonctionnaires, etc. Mais je pense, c'est l'écho de la question que vous posiez tout à l'heure, c'est pourquoi le PS est mort. C'est que je pense que les socialistes n'ont pas pensé l'État, n'ont pas pensé la mondialisation, n'ont pas pensé aujourd'hui le rôle de l'État et donc de la fonction publique dans une société moderne.
Attention, hein, quand l'enquête de Luc Rouban à laquelle vous faites allusion, du Cevipof, de ma maison,
bien sûr,
montre, attention, c'est pas la catégorie globale des fonctionnaires, excusez-moi de faire ce petit exercice de professeur, mais c'est les catégories surtout C et D de la fonction publique, c'est-à-dire les catégories les plus faibles,
modestes,
qui sont les plus modestes, qui se sentent effectivement dans des situations extraordinairement difficiles.
Ils se tournent vers le Front National, notamment.
Oui, et notamment, alors, police et armée, largement, hein, c'est une partie de la fonction publique aussi, et notamment la fonction publique hospitalière, qui se retrouve dans des situations au contact de populations extraordinairement difficiles, et notamment dans les quartiers les plus défavorisés, et là, il y a un processus de radicalisation. Excusez-moi, mais
encore une ou deux questions. Les battus de la primaire socialiste vont-ils se ranger derrière Macron? Ça paraît.
Pas tous, je pense pas.
Certains.
Enfin,
d'entre eux, oui.
Oui, bien sûr.
Si Macron se qualifie et est en position de se qualifier, ils iront, certains iront.
Hollande est-il le véritable fossoyeur du PS et Macron le récupérateur de ses électeurs?
Non, je crois que, pour être honnête, parce que Hollande, il s'en prend évidemment plein la figure, c'est que Hollande a essayé, justement, de faire évoluer ce PS, mais il l'a pas dit ouvertement. Et son erreur, c'est de ne pas avoir joué franc jeu. Voilà.
La dernière question, Manuel Valls fait-il la même erreur que Juppé en voulant rassembler trop tôt?
Non, il ne fait pas la même erreur que Juppé, il fait la stratégie inverse de celle de Juppé. Oui. Juppé parlait à la terre entière, il ne parlait pas à la droite, Manuel Valls parlait à la gauche, alors avec les dangers qu'on a évoqués sur le brouillage d'images.
Merci beaucoup à tous les quatre, merci d'avoir participé à cette émission, merci aussi à l'équipe qui a préparé ce C'est dans l'air. Dans un instant, Anne-Sophie Lapix pour C'est à vous. Ce soir, la rediff est à 22h40, on se retrouve demain en direct à 17h45 pour le C'est dans l'air du samedi. Très bonne soirée sur France 5.